Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres d'une communauté vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
Guillaume Natas, bonjour.
Bonjour Vincent.
C'est une joie de vous retrouver.
C'est une immense joie aussi de te retrouver.
On se tutoie. On remet à chaque fois au début un petit peu ça, mais on se tutoie. Après, tu dis, mais attends, les fois d'avant, on se tutoie ou pas? Oui, bon, alors on se tutoie.
D'accord.
Guillaume Natas, bonjour.
Bonjour Vincent.
C'est une grande joie de te retrouver.
C'est une joie partagée.
De quoi parlons-nous aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment très spécial parce qu'on va parler d'une communauté dont je fais partie, dont j'ai fait partie. Et surtout, on va parler de quelque chose qui, pour moi, je crois, n'a pas eu d'égal sur Internet, dans le monde. On va parler d'une communauté dans laquelle je suis rentré il y a 14 ans.
Le suspense est intense.
Et qui a changé ma vie, vraiment. Et qui, aujourd'hui, a encore des influences sur ça.
C'est insoutenable.
Donc, on est en 2004. On est en 2004, donc Internet, moi, j'ai 14-15 ans.
Okay. Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on?
C'est juste pour te remettre un peu dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien de tout ça. On est même assez peu à être sur Internet. Moi, je suis sur Internet parce que mon père m'a foutu un modem et m'a dit « va sur Internet, c'est l'avenir ». Et bon, c'est pas...
silence et la connexion.
Un jour, il y a un type qui me parle sur MSN et qui me dit « Putain, je suis sur un forum incroyable, il faut absolument que tu viennes, tu vas adorer. » Il me dit « Donne-moi ton adresse email. » Donc là, je lui file mon adresse email, c'était pas du tout quelque chose de commun non plus à l'époque de s'envoyer des mails. Donc tu allais ouvrir tes mails, t'allais voir tes mails tous les 4 jours, enfin, c'était pas un média habituel. Et là, je reçois...
Mais de quoi va-t-on parler?
Et donc là, je reçois mon invitation pour le site... Parano.be.
Parano.be.
Et là, je reçois cet email que j'ai envie de te lire parce que tous ceux qui l'ont reçu, voilà, bon. Cher inconnu, cher internaute, cher ami, ceci n'est pas une lettre chaînée. Inutile d'approcher le curseur de la souris du bouton effacer. Ne niez pas, on vous a vu. Le site parano.be recherche de nouveaux participants dignes de confiance et on a pensé à vous. Heureux ? Parano.be, c'est une grande aire de jeu, un site attractif, ce sont des membres ouverts et sympas. Vous pensez avoir fait le tour des sites sur le net? Manifestement non, et comme de toute façon vous n'irez jamais sur la moitié d'entre eux, que risquez-vous à nous rendre visite? Venez vite nous rejoindre, l'ordinateur se fera un plaisir de vous accueillir, un site plein de couleurs, sans traître ni mutant. Signé un ami, entre parenthèses, forcé de l'ordinateur. PS, tout dans ce mail est véridique. Ceci dit, certaines choses ont été enjolivées pour des raisons marketing. Imaginez, on nous a autorisé à mentir et à piquer des morceaux de texte intéressants ailleurs afin de rédiger ce mail. Et un mystérieux code en nous disant rendez-vous sur telle adresse. Et là, je m'inscris sur parano.be. Le site s'appelle
Parano.
Parano, voilà.
Bon.
Parce qu'il a été créé par un Belge, il y a une quinzaine d'années, qui a voulu créer un forum, un grand forum, en utilisant un système de jeu et d'interaction, un wording et tout ça, inspiré d'un jeu de rôle des années 80 qui s'appelle Paranoïaque.
Donc on parle d'un jeu de rôle.
Un jeu de rôle sur table pour les rôlistes.
Quand tu dis jeu de rôle, c'est faire un jeu rigolo, quoi.
Oui, mais qu'on n'est pas là pour rigoler.
C'est clair.
Ce jeu de rôle, Paranoïaque, il se passe aux États-Unis dans un monde post-apocalyptique où tout le monde vit sous terre parce que dans la société, c'est un ordinateur qui contrôle le monde et l'ordinateur est paranoïaque. Donc, il a foutu tout le monde sous terre pour les protéger.
Et donc, c'est une dystopie un petit peu... On compare à ça à quel film, par exemple?
Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de Brésil dedans. Il y a du Brésil. Il y a du Brésil dans le côté déjanté. Il y a un peu de l'Armée des Douze Singes.
Il y a un peu de Futurama avant l'heure.
Ouais, il y a du Futurama avant l'heure. Il y a même un film des années 70, un long métrage, qui s'est fortement inspiré du jeu de rôle, paraît-il.
Mais non, pour moi, Paranoïa, ça me fait plus penser à Le Meilleur des Mondes de 1984, etc.
C'est vrai qu'il y a ça. Ouais, ouais. Mais j'ai presque envie de dire...
Il y a une lande, en fait.
Oui, THX 1138 de George Lucas. Mm-hmm. Eh bien, il y a quelque chose dans cette idée d'univers-là.
C'est très second degré, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Et donc, il a créé une société hiérarchisée dans le complexe Alpha, qui est le nom du monde dans lequel vivent tout le monde, et chacun a un rôle dans la société. Et en fonction de ta hiérarchie dans la société, tu as une accréditation qui est une couleur. Donc ça va d'infrarouge à ultraviolet en passant par rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.
Et comment s'appelle le créateur du site ?
Jean-Charles Nadet.
Nadet.
Oui, mais en fait, on se parlait que sur pseudo. Donc son pseudo sur le site, c'était Charlie.
Charlie.
Et donc t'arrivais là-dessus, et le premier message que tu recevais, donc c'était citoyen. Donc on s'appelait citoyen. Les gens, ça c'était dans le wording du jeu de rôle, donc citoyen.
Nous avons bien pris acte de votre envie de rejoindre le complexe Alpha. Toutefois, nous savons que vous avez 99% de chances d'être un traître séditieux.
Donc ça aussi, ça faisait partie du wording. Traître séditieux, aujourd'hui, les gens de parano, ils savent ce que ça veut dire, personne d'autre.
Vous devez donc faire vos preuves. Vous avez 3 jours pour remplir votre profil, mettre une photo de vous. Suite à ça, les citoyens d'accréditation jaune pourront vous proposer d'accéder à l'accréditation rouge.
Tout ça dans une espèce de wording complètement incroyable, toujours très administratif, très, très propagande, tu vois. Et en même temps, toujours très drôle. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'humour et immédiatement, je rentre dans le jeu. C'est-à-dire que je me dis,
d'accord, alors j'ai qu'une envie, c'est d'être ultraviolet. Putain, je veux voir mon truc monter.
Alors, il faut que j'explique aussi un autre truc avant qu'on commence. Les personnages de nos joueurs sont tous des clarificateurs rouges. Donc les clarificateurs, ce sont un peu les hommes à tout faire de l'ordinateur. Donc ils leur donnent des ordres et ils leur confient des missions spécifiques. Et ne pas les accomplir sont évidemment une trahison qui sont passibles de mort.
Quand t'arrives... T'es infrarouge et rouge, ça c'est les deux accréditations du débutant sur le site.
Comment tu peux être infrarouge et rouge en même temps ?
Non, infrarouge puis rouge.
Mais donc t'arrives, t'es infrarouge.
T'es infrarouge.
Mais fais simple.
Ouais, bon, si tu fais pas d'efforts.
Si t'arrives infrarouge, rouge, bleu, ça marche pas quoi.
T'es infrarouge.
Infrarouge.
T'es infrarouge.
Alors je commence à rédiger ma petite fiche, je me présente, je mets une photo de moi. Alors avoir une photo de soi déjà à l'époque c'était compliqué parce qu'il fallait une webcam ou enfin on n'avait pas la possibilité des appareils photo numériques et tout. Donc je mets une photo de moi et je commence à rédiger tout ça et je visite le site. Et donc le site est organisé en secteurs.
Moi, je vais sur le forum ADO.
Chaque secteur, c'était 3 lettres. Alors, tu avais art, ADO, PNM pour Paris, ESO pour les fans d'ésotérisme. Et là, je commence à découvrir qu'il y a un point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils sont plutôt marrants. Et que tout le monde sur sa fiche joue le jeu. Donc, rentre dans cette espèce de grosse blague de « on est tous citoyens d'un complexe imaginaire ». Et on doit rendre hommage au grand ordinateur, et on doit monter en couleur, et petit à petit, ben je commence à parler avec des gens, et puis je vais voir un type, et je lui dis « Oui, comment on fait pour passer rouge ?» Et il y avait marqué sur le truc qu'il ne faut jamais demander « Comment on fait pour passer rouge ? Tu passeras rouge quand tu mériteras. » Et donc je me retrouve prisonnier politique. C'est-à-dire qu'il y avait des sanctions humoristiques sur ce site. Par exemple, quand tu insultais les gens, tu te faisais troller. Tu étais un troll pendant 24 heures, et donc quand tu allais parler sur les forums ou en message, à la place de ce que tu disais, ça marquait... On pouvait pas te lire. C'était drôle. En même temps, c'était pas méchant, et en même temps, bah, t'étais obligé de te taire, et si tu parlais, on voyait que t'étais un troll, donc t'étais ridiculisé. Et donc il y avait tout un tas de petites subtilités comme ça, qui rendaient l'expérience complètement étonnante, et qui en plus te poussaient à rencontrer des gens qui n'étaient pas dans les mêmes centres d'intérêt que toi.
Mais à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un dans le complexe Alpha, il faut avoir un
costume parfait.
Un costume parfait. Donc à chaque fois que quelqu'un disait « Dites-moi citoyen, votre braguette est ouverte », il fallait trouver une bonne raison pour dire « Non, mais je ne vais pas fermer ma braguette
voilà. ». Sinon,
le futal...
À un moment, il y en a un qui a fermé sa braguette et il y a des roquettes qui sont sorties du côté de son pantalon et qui a été s'encastré, enfin, s'écrabouillé sur le plafond.
Sur Parano, je me retrouve sur un immense forum avec plein de sous-forums qui parlent de sujets précis, mais avec au-dessus de ça, une espèce de jeu de rôle qui fédère tout le monde.
On vivait tout nu, on était les nomades. Plus on évolue et plus on rétrograde. On manque de globules.
Moi, quand je suis arrivé sur le site, je portais le numéro 19495. Donc, il y avait eu 20 000 personnes avant moi. Et quelques années plus tard, on avait dépassé les 200 000 membres. Ça a vraiment été un gros truc.
Et il y avait comme règle d'inviter tes amis. Mais si tu invitais quelqu'un qui n'était pas digne, tu pouvais avoir des sanctions au même titre que lui. Donc, tu allais chercher vraiment des gens genre sympas de ton entourage et tu leur disais « Bon, je t'invite sur Parano, mais attention, tu fais pas de conneries, tu dis pas des choses séditieuses. » Par exemple, il était interdit de mettre en photo un chat. C'était une règle d'or parce que les chats étaient là pour contrôler Internet et ça, c'était, voilà, c'était pour attendrir les gens. Donc, si tu mettais un chat en photo, tu allais en prison.
Donc, tu arrives là-dedans, tu es infrarouge. Et tu rentres dans une communauté qui s'appelle Ado.
Le secteur.
Ah pardon, le secteur Ado. Et là, qu'est-ce qui se raconte ?
Alors, c'était un secteur assez généraliste, dans la mesure où on était segmenté par notre âge. Donc, on se racontait des trucs de jeunes, on s'envoyait des vidéos rigolotes.
Il y avait déjà des sites comme Coreus.com, qui était une sorte de vidéo gag d'Internet, et qui postait chaque jour une vidéo drôle.
Drôle ou deux rôles ?
Deux, drôle, amusante,
drôle,
cocasse.
Drôle, d'accord.
Et donc on s'échangeait souvent les vidéos de Coreus. Il y avait quelques sites comme ça qui donnaient des vidéos en très mauvaise définition.
Vous échangez des liens, en fait.
On échangeait des liens.
D'accord.
Oui, bien sûr.
C'était pour comprendre.
On faisait en fait de l'Internet comme on fait un peu aujourd'hui sur Facebook, c'est-à-dire que chaque jour, chaque sujet d'actualité, chaque nouveauté, chaque truc qui vient de sortir est l'occasion d'échanger. On avait aussi des moments roleplay où on jouait comme au jeu de rôle. Donc, on racontait une histoire. Par exemple, ce soir, notre secteur est attaqué par un autre secteur. Donc, on se faisait des bastons où on s'envoyait des insultes rigolotes, des choses un peu... on faisait du roleplay, quoi. On jouait à un jeu. Mais de manière générale, on parlait de l'actualité, on parlait de ce qui nous touchait, mais toujours avec la volonté de se démarquer de manière positive.
On pouvait aussi avoir une espèce de robot chien qui était assez désagréable parce qu'il avait tendance à uriner de l'huile sur les citoyens.
De l'acide.
Et il pissait de l'acide.
Donc, de l'acide,
ouais. Ça peut être gênant sur vos habits, sur vos pieds, tout ça, de recevoir de l'acide.
Et puis, il y a eu un été où j'ai commencé à rencontrer dans la vraie vie des gens de Parano. Tous les ans, il y avait une grosse soirée. Une grosse soirée en Belgique qui s'appelait les Nuits Paranoïaques, où tu allais et où tu avais droit à un bracelet en caoutchouc d'une couleur spécifique pour chaque soirée. Et là encore, c'était hallucinant. C'est-à-dire que tu arrivais en Belgique, à la gare du Midi, tout le monde était de parano. C'est-à-dire que tu avais des gens de tout partout qui arrivaient à Bruxelles pour une nuit paranoïaque. Et ça parlait de parano, avec le wording parano. Ah non, mais machin, c'était un traître. Il a eu des propos séditieux. Et on faisait une énorme teuf dans une très très grande salle qui s'appelle les caves de Curangame des anciens abattoirs, où chaque secteur avait son petit atelier et pouvait faire des performances artistiques parce qu'il y avait beaucoup de gens artistes, beaucoup de gens qui étaient DJ et compagnie. Et on se tapait des soirées orgiaques. Et moi, j'avais 16 ans et je me pointais là-bas. Je partais en Belgique en secret et je me pointais là-bas et je découvrais comme ça, une espèce de vie d'adulte avec des gens qui avaient plein de choses à raconter, des gens qui étaient très intéressants, avec qui j'avais parlé en ligne et qui étaient tous dans ce gros délire qui aujourd'hui a presque la forme d'une hallucination collective, tu vois, où on avait nos mots, on avait ça et on allait vénérer l'ordinateur.
Tu parles de soirées en Belgique immense. Qui finançait ça ?
Le site.
Sur le site, tu pouvais acheter une prévente.
Donc il y avait des transactions d'argent sur le site ?
Oui. Il y avait la possibilité de payer 10 euros une fois pour avoir des options supplémentaires, et donc ça finançait le site qui coûtait cher quand même. Hein. Et après, il y avait la soirée, et c'était une soirée payante.
Mais sur le site, il n'y avait pas de publicité, de choses comme ça ?
Absolument pas. Pas de publicité, la publicité en ligne, c'est de la merde, on n'en veut pas.
Si vous voulez un petit savoir un petit peu comment ça donne une ambiance de paranoïa, il y a eu un épisode chez Geek Sundry avec Will Wheaton et Felicia Day. Felicia Day, c'était...
elle a joué dans Buffy, elle a joué dans Guild.
Donc ici, il y a un petit épisode où je vous en mets un court extrait.
I'm from sector SPAM.
SPAM, Prince.
Ok.
On parle de communauté, donc on parle de gens qui vivent ensemble. Là, ces gens qui sont sur ce site parano.be, est-ce qu'ils ont formé une forme de réseau qui existe encore ?
Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, donc moi j'ai une société que j'ai développée. Bah, dans mon bureau, on est 8, on est 4 qui venons de Parano. C'est-à-dire que c'est un réseau qui a eu énormément d'importance pour plein de gens et qui, du coup, bah, tes amis sont devenus des gens que tu avais rencontrés sur le site ou par capillarité. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté où c'était des gens qui te ressemblaient un peu, qui étaient un peu marrants. Et moi, c'est vrai que ça a été une vraie source de réseau pour moi Et pour pas mal de gens, je crois que c'est la même chose. Alors après, bien sûr, aujourd'hui, on n'est plus sur le site. Enfin, le site, il est toujours là et c'est un peu tragique. Mais on n'est plus sur le site. Mais
le site existe encore.
Le site existe encore.
Il y a encore un parano.be.
Ouais, il y a encore un parano.be. Et moi, je trouve que ce qui serait super, ce serait de l'éteindre. Et peut-être qu'on fasse une dernière grosse soirée paranoïaque où tout le monde se retrouve une dernière fois pour se souvenir de tout ça. Mais le site existe encore. Et aujourd'hui, quand tu vas sur le site, sur la page d'accueil, j'y suis allé tout à l'heure pour récupérer notamment le mail d'invitation, tu vois qu'il y a genre 3 ou 4 personnes en ligne. Alors que moi, à l'époque dont je te parle tout à l'heure, il y avait 4000 personnes le soir. 4000 personnes en 2005, ce qui est complètement fou. Enfin, t'avais pas... Pour de l'Internet, c'était énorme.
Quels sont les points positifs de cette communauté ? Alors, qu'est-ce que ça apporte humainement ?
Humainement, ça t'apportait déjà la possibilité d'aller rencontrer des gens dans d'autres sphères que les tiennes en ayant un point d'approche. Par exemple, moi, je me souviens que quand j'ai eu mes histoires de bac et tout, j'allais voir les profs qui étaient sur Parano et je leur demandais des conseils. Et immédiatement, j'étais reçu en ami. Enfin, je venais voir et coucou, moi, je suis du secteur ado, j'ai des questions sur mon bac. Est-ce que tu sais comment tel truc, tel truc ? On avait tout de suite un rapport très simple et on avait la possibilité d'aller rencontrer des gens d'autres délires que nous.
Je me rappelle, il y avait un mec, il était maréchal ferrant, il montrait tout son travail régulièrement. Alors voilà, t'avais aucune chance de rencontrer un maréchal ferrant autrement que sur Parano, tu vois.
Après, il y avait une vraie solidarité, évidemment, quand t'arrivais en Belgique pour les soirées, t'étais hébergé gratos. Il y avait des rendez-vous dans des restos où on était, bah tiens, on sera dans tel resto, viens qui veut. Et on se retrouvait à manger à 40 autour d'une table immense et à discuter de tout et de rien, à rencontrer des gens. C'était très intéressant, c'était très enrichissant et toujours bon enfant autour de quelque chose d'unique, c'est-à-dire cette espèce de jeu et cette espèce de Facebook avant l'heure où les gens se parlaient assez naturellement sans forcément chercher tout de suite le côté politique, le côté qu'on a trait aujourd'hui où on parle aux gens qui nous ressemblent. Là, on pouvait parler à des gens qui ne nous ressemblaient pas. Et je pense que c'était grâce à cette idée d'avoir mis un jeu derrière tout ça.
Et les points négatifs de cette communauté, les points contraignants, c'était quoi ?
C'est que ça prenait beaucoup de temps. Il fallait s'impliquer et il y avait un petit peu une dictature de l'implication. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai été bleu, il y avait un forum interne des bleus sur lesquels il fallait être actif, il fallait surveiller tout le monde, beaucoup parler entre nous. Et à l'époque, se dire que tous les soirs, tu passais 2 ou 3 heures sur Internet pour aller vérifier les conformités des fiches, pour aller discuter avec tes copains bleus des sujets... des sujets du moment, ça prenait du temps. L'autre point négatif, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu sectaire aussi, quand même. C'est-à-dire que tu avais tendance à l'époque, à avoir des potes sur Internet et à peut-être un peu délaisser tes potes d'à côté. Moi, je sais que ça avait inquiété mes parents. Ils me disaient, mais bon...
Pourquoi est-ce que toi, t'as pas des copains à l'école comme tout le monde ?
Et moi, j'étais pas super intégré à cette époque-là. Et c'est vrai que j'avais des copains sur Parano qui avaient 4 ou 5 ans de plus que moi et je trouvais ça très cool de les retrouver le week-end. Mais ça m'avait un peu aussi isolé dans ma vie... dans ma vie personnelle, qui était de toute façon pas très riche à l'époque. Donc je pense pas que j'ai perdu grand-chose. Mais ça créait une espèce de logique de sociabilité parallèle qui, à l'époque où Internet était marginal, pouvait être un petit peu étonnante ou négative dans la vie quotidienne.
Ce qui est marrant aussi, c'est que Paranoia est sorti donc, dans les années 80. Et en fait, ça s'appelait Paranoia tout court. Et puis, j'ai lu soit une édition qui s'appelle Paranoia XP, parce que oui. Paranoia est aussi une espèce de satire de monsieur Bill Gates et de son programme informatique qu'on ne citera pas.
Ouais.
Et vous savez qu'il y a une extension à ce livre, vous savez comment elle s'appelle ?
C'est...
Il s'appelle Paranoia Service Pack 2.
Non.
Et donc, oui, les créateurs de Paranoia ont eu un procès de la part de Bill Gates parce qu'il avait, oui, il parodiait, il a utilisé le nom.
Bill Gates, si tu nous écoutes, faut que tu arrêtes de faire des choses comme ça.
Tu es vraiment un méchant.
Et puis voilà, ça s'est essoufflé au fil du temps quand Internet a changé et que le site n'a pas tellement su, lui, suivre ce changement. Mais en tout cas, ça a vraiment été une expérience incroyable. Ça a duré 4 ou 5 ans, l'apogée de Parano. Et il y avait vraiment des événements incroyables. Enfin, pour moi, je me souviens, ces 2 ou 3 grosses soirées que j'ai fait 3 ans d'affilée pour l'anniversaire de l'ordinateur. On arrivait à Bruxelles et il y avait 5000 personnes dans une immense salle qui faisait la fête et qui était hyper chaleureux. On était tous déguisés, on portait une petite étiquette avec notre pseudo et qui festoyaient ensemble et qui s'éclataient. Et puis tout le week-end, évidemment, il y avait des animations parce que tu venais le samedi soir, mais tout le monde arrivait le vendredi, on repartait le dimanche, et il y avait des trucs parano tout le temps à Bruxelles. C'était absolument énorme comme sensation de se dire « je fais partie de ce truc indescriptible qui est né avec le début d'Internet et qui n'aura pas de... Il n'y aura peut-être pas un parano comme ça a été à cette époque-là, où en plus on était des gens qui étions pionniers d'un outil qui était nouveau. » Enfin, c'était vraiment extraordinaire, ça.
Vieillit tellement vite qu'on ne s'en aperçoit pas. Si on mourait tout de suite au fond, ça changerait quoi ? On a tous dans la tête des paradis perdus. Si la vie est une fête, que la fête continue. Sur ce rythme-là, on verra bien où.
On sait comment on reconnaît un furries parce qu'il porte un costume ridicule. On sait comment on reconnaît un vampire parce qu'il a des crocs, je sais pas quoi. On sait comment on reconnaît un survivaliste parce qu'il a un sac à dos et qu'il court se mettre dans la forêt dès qu'il y a un volcan qui pète. Comment on reconnaît un... D'abord, comment on appelle les gens de la communauté parano.be?
Alors, on s'appelait les parano ou les paranoïaques. Ouais, on disait c'est une paranoïaque. Elle est sur Parano. On n'avait pas vraiment un wording défini là-dessus parce que le créateur voulait que le site s'appelle Paranoïac, mais personne n'utilisait ce nom. Tout le monde disait Parano. Et donc, voilà, sur le site, c'était les citoyens, mais dans la vraie vie, c'était les Parano. On disait, voilà, je rejoins des gens de Parano, c'était comme ça.
Et comment on reconnaît un Parano voilà, est-ce qu'il y a
Alors,
des signes?
Il y a des signes. Déjà, il y avait le petit bracelet en caoutchouc de la dernière soirée où t'avais été, et plus t'en avais, plus t'avais été aux soirées, donc tu pouvais avoir toute la gamme chromatique de bracelets, ça c'était la grande classe. Il y avait des badges, à toutes les soirées ils vendaient des badges parano avec les trucs iconiques du site, donc sur le site on pouvait s'envoyer des images, ça s'appelait des love bots, on s'envoyait des images d'amour, donc genre je t'envoie un cœur avec marqué « Hey Vincent, comment ça va ?» Ça me coûtait quelques petits crédits, qui étaient du crédit que je gagnais en étant connecté sur le site, et qui me permettait aussi d'inviter des gens, enfin c'était la monnaie virtuelle du site. Et donc il y avait des images qui étaient un peu iconiques, donc on avait des badges, on avait le badge avec l'œil de l'ordinateur. Et puis tu reconnaissais un peu, franchement à une époque à Bruxelles, quand tu voyais quelqu'un autour de 20 ans, un peu goth, un peu arty, un peu spécial, t'es sûr qu'il était sur Parano.
Parce que c'est encore des gothiques qui sont là-dedans.
Je pense que ça marchait bien sur les gothiques qui ont un attrait pour les choses un peu excentriques, qui aiment l'imaginaire, qui sont quand même tournés vers la littérature, vers ça. Ça marchait bien, mais il n'y avait vraiment pas que ça. Hein. C'était pas une communauté de goths. Mais ça avait bien pris chez les goths.
Donc on reconnaît les paranoïaques du site parano.be parce qu'ils portent des badges ou des bracelets.
Puis tu les reconnais aussi à leur langage. Ça nous est arrivé d'être dans un bar et puis d'entendre des gens à côté commencer à dire « Oui, sur mon secteur, nanana ». Et là, on savait que c'était des gens de parano. Direct, on pouvait leur parler. « Ah bon, vous êtes sur parano ?» En fait, à l'époque, c'était un petit peu comparé à de la franc-maçonnerie, je me souviens. Et c'est vrai que c'était assez proche à certains égards. Tu devais être coopté pour rentrer, tu devais monter ensuite des grades.
Et est-ce qu'il y a des, comme dans la franc-maçonnerie, des sortes de pistons, de « je te trouve du boulot », des choses comme ça?
Ouais, clairement. Mais moi, je pense que ça, il y en a dans toutes les communautés. Enfin, tu vois, si demain, moi, j'ai plus de travail et que je te dis « bah Vincent, si t'as pas un truc, tu vois, on se connaît, tu me pistonneras peut-être ».
Non.
Non, mais globalement, oui, moi, je sais que je connais des gens qui sont partis vivre en Belgique à l'époque de Parano en étant genre, ils avaient pas de taf, pas de baraque. Ils se pointaient chez leurs potes de secteur. Le mec leur disait « bah attends, je t'héberge jusqu'à ce que tu trouves. Et si j'entends parler de quelque chose, bien sûr ».
Et aujourd'hui, cette communauté, donc, c'est fini.
En venant dans le métro, ça m'a quand même scié parce que ça n'arrive pas si souvent. J'ai pris le métro pour venir, j'ai croisé un mec de Parano. Et il vient me voir, il me fait « Putain, on s'était pas vu peut-être depuis 5 ou 6 ans ». Et je lui dis « C'est incroyable, je vais parler de Parano là ». C'est un type avec qui, à une époque, je sortais, on allait à Bruxelles ensemble, on faisait des péniches à Paris, on se retrouvait. C'est pas quelqu'un dont j'étais très proche, mais on se connaît bien. Mon meilleur ami aujourd'hui a été sur le site aussi. On se connaissait pas quand on était sur le site, mais ensuite on a eu des amis communs après le site qui s'était connu sur le site et qui nous ont fait nous rencontrer. Et c'est vrai que c'est vu un peu par les autres de l'extérieur comme des ovnis. Enfin, on est un peu des... Moi, ma copine qui est de Nice ne connaît pas du tout Parano et dit « Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plein de gens qui en parlent de temps en temps. » Et c'est un sujet de conversation qui revient régulièrement en soirée. Et on se rappelle de sites sur lesquels on était il y a 10 ans et qui a été un peu incroyable. Enfin, moi, j'ai eu ma première petite copine sur Parano, tu vois.
Quand on fait connaissance avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des mots à glisser dans la conversation qui te permettent de le savoir si la personne était sur Parano
Tu peux demander à quelqu'un quelle est ton accréditation, quel est ton secteur. Tu peux dire gloire à l'ordinateur aussi.
Oui, mais il y a peut-être des façons plus discrètes de le faire.
Alors, si tu utilises le terme félon ou le terme séditieux, qui sont des termes complètement désuets, à part par les gens de Parano, qui étaient extrêmement utilisés, le mot séditieux, ça, c'est vraiment un terme de Parano, quoi.
D'accord.
Ou un félon pour dire un traître aussi. Ça, personne n'utilise ce mot. Et je me souviens, on disait, oui, c'est un félon. C'est le traître chat
qui vient attendrir les gens sur Internet pour dominer Internet, quoi. Voilà.
Donc deux petits passages. C'est
ou trois petits passages.
Trois petits passages. Alors, il y en avait un où à la fin, on se retrouvait face à des cafards géants qui ne parlaient que de Nietzsche.
C'est quand même assez intéressant. Je pense que je vois. Il y a quelque chose de kafkaïen.
Tout oui, à fait. Il parlait pas de Kafka. En fait, ouais. Il parlait que de Kafka et j'ai dit n'importe quoi.
C'était des girafes qui ne parlaient que de Socrate. Voilà.
Exactement.
C'est des hippopotames qui ne parlaient que de Bernard-Henri Lévy.
Autre truc.
Eh ben, Guillaume Natas, merci.
Eh ben, avec grand plaisir, Vincent.
Et à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Une émission du Poste Général.